actualité, entrevue, débat. FM 93, la meilleure radio d'actualité à Québec. Samedi et dimanche matin dès 7h au FM 93, c'est Que Québec se lève avec Paul-Raphaël Charon.
Que Québec se lève au FM 93.
Samedi 20 janvier 2018, il est 7h59 minutes. Bienvenue au FM 93.
On fait le point sur les sinistrés de la rivière Saint-Charles dans le quartier du Berger Les Saules. Alors, ce sera un retour graduel à la maison pour certains sinistrés au cours de la journée.
Le Canadien de Montréal qui a survécu à la remontée des Capitals de Washington en fin de match pour l'emporter 3-2 grâce à deux buts de Max Pacioretty.
Météo aujourd'hui, c'est très doux à Québec. Il y aura quelques passages nuageux. Ce matin, quelques flocons qui, au cours de l'après-midi, se feront des averses de pluie. Maximum à 3 degrés. La nuit prochaine, ça descend à moins 12. Et demain, dimanche, il va faire beau. Il y aura du soleil, quelques passages nuageux, maximum de moins 7. Et même scénario pour la journée de lundi. Présentement, c'est zéro à Québec.
Avant d'aller aux nouvelles, Julie, il y a deux petites choses que je voulais vous partager concernant le passage de notre premier ministre, Justin Trudeau, dans la vieille capitale cette semaine. Parce qu'il a fait, d'abord, je salue le fait qu'il ait fait la tournée des radios avant son espèce de rencontre citoyenne là, à Rochebelle, où il recevait les citoyens. Il fallait s'inscrire au préalable. On a vu finalement que c'était pas si nécessaire que ça de s'inscrire au préalable. En tout cas, il fallait s'inscrire, on allait là, puis là, les gens au hasard étaient sélectionnés, pouvaient poser des questions au premier ministre et ils répondaient. Bon, évidemment, on sait que Justin Trudeau manie très, très bien la langue de bois, là. Tu sais, ébéniste buccal, qu'il est. Non, mais tu sais, il est très bon pour parler. Mais Michel Hébert a déjà dit que quand Justin Trudeau parlait, on avait l'impression d'entendre le vent souffler dans le Grand Canyon. ça m'a fait rire pas mal. Mais bref. N'empêche, il faut reconnaître l'événement citoyen. Et il y a quelque chose qui m'a confirmé ce que je pensais. Et c'est la présence de la fameuse Storm Alliance. Storm Alliance, en bon français. Eux qui sont ont décidé qu'ils y allaient à la rencontre citoyenne. Ouais. Jusque-là, tout va bien. Mais je suis tombé sur une vidéo de leur espèce de porte-parole, Dave Treggett.
Ouais.
Et M. Treggett, ce qu'il dit, c'est... Ah, ben là, d'abord, on pensait pas être admis, fait qu'ils nous ont laissé rentrer, on s'était pas inscrit, fait qu'on était quand même contents, ça m'enlève un peu des munitions pour me plaindre, tu sais, ils ont été courtois, puis ils nous ont laissé participer. Ouais, ils nous ont demandé d'enlever nos manteaux, puis nos cache-coups, mais ils disaient que c'était pour des règles de sécurité, puis c'était pareil avec tout le monde, mais en tout cas, pas trop contents qu'ils nous aient obligé d'enlever nos manteaux, mais ils ont pu garder leur truc. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est être identifiés. Être là, ouais. Parce qu'ils ont tout leur attricage avec leur logo de Storm Alliance. Mais bref, ils ont gardé leur truc, tu sais. Bon, ils étaient très bien identifiables là, dans la foule. Jusque-là, tout va bien. Qu'on aille manifester ou qu'on aille défendre ses opinions, ça sert à ça, finalement, cette assemblée citoyenne-là. Mm-hmm. Mais c'est quand il m'a dit « Ah, finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien à faire là, fait que on va passer après une demi-heure. » Je me suis dit « Quelle belle gang de courageux! » Non, mais, tu sais, ils organisent des manifestations, OK? Ça veut dire qu'ils ont des revendications, mm-hmm. Ils ont des idées qu'ils défendent, et ils ont des principes, et j'ose croire qu'ils ont des solutions à proposer.
Mm-hmm.
Et j'ose croire qu'ils ont des questions à poser au premier ministre. Leur manifestation, c'est la trame de fond, c'est toujours, on est contre les règlements d'immigration de Justin Trudeau. On est contre la façon dont Justin, jamais Monsieur Trudeau, on est contre la façon dont Justin orchestre l'immigration au Canada. Et quand Justin est à Québec et puis qu'ils sont là puis qu'ils s'organisent et puis qu'ils disent regardez je viens à votre rencontre venez me poser vos questions ils vont puis ils font voir finalement ça nous tente plus
c'est trop long.
Quelle belle démonstration de courage.
Ben c'est comme en fait s'ils avaient voulu braver la sécurité tu sais s'ils avaient été refoulés à l'extérieur des portes là ils auraient pu dire ils nous ont pas accepté pour telle raison et là une fois sur place ben on dit ben c'est pas intéressant mais je sais pas est-ce que toutes les personnes qui se trouvaient là avaient droit de parole est-ce que
pas nécessairement les gens étaient choisis aléatoirement je connais pas par quelle procédure mais on choisissait au hasard des gens. Puis s'ils avaient une question, ils pouvaient la poser.
Okay. Parce que sur la photo que j'ai vue dans le journal ce matin, ils semblent être assis vraiment à l'arrière, là, très, très loin de Justin Trudeau. Je sais pas si c'était arrangé comme ça ou...
Ben, en fait, c'est qu'il s'était pas enregistré, fait que ça a été plus long avant qu'il rentre. Puis c'était très spécifiquement indiqué qu'il fallait s'inscrire. Eux, ils s'étaient pas inscrits. Puis on leur a dit, regarde, il reste de la place. Ils sont rentrés en dernier. Ils ont pris la place qui restait.
OK, c'est ça.
Parce que c'était comme, ils étaient pas les seuls, justement, à vouloir poser une question.
Non, puis il fallait s'inscrire, mais il n'y a pas de place à signer. C'était premier arrivé, premier servi.
C'est pas très sérieux, là, comme attitude.
Ah, écoute, moi, ça m'a, quand je vous dis, ça m'a confirmé ce que je pensais. C'est que ça m'a confirmé que c'était des gens qui allaient là. Ah, pas qu'elle est là, mais qui, en général, aimait un peu avoir l'attention. Il aime ça passer dans les médias. Il aime ça manifester. Puis moi, je suis pas très manifesteux, mais je les comprends. Regarde, ça le fait des samedis après-midi où est-ce qu'ils vont se promener, puis ils ont l'impression qu'ils défendent une cause, puis qu'ils portent les valeurs des gens qui sont pas entendus. Mais en réalité, la démonstration qui est faite, c'est que c'est pas du gros courage.
Tu sais, il y a quand pas beaucoup de profondeur, là, dans leur revendication.
Quand vient le temps de réfléchir un petit peu, puis d'intellectualiser tout ça, ça prend une demi-heure puis on s'en va. Finalement, c'est ça que c'est ce que j'ai retenu. Et en même temps, le meilleur exemple que je voulais vous donner, parce que je suis certain qu'il y en a d'entre vous qui vous dites, ben, en même temps, quand même bien qu'il aurait posé la question, que c'est que ça aurait changé. T'as Justin Trudeau devant toi. Qu'on dise ce qu'on voudra par rapport à Justin Trudeau. Quelle est la meilleure façon d'influencer le contenu que vous écoutez présentement dans notre émission? Écrivez-moi. Puis mon adresse de Cogeco est disponible au fm93.com et vous êtes nombreux à m'écrire à chaque... Il n'y a pas une semaine sans que je reçoive des courriels d'auditeurs qui me disent « Je suis d'accord ou je suis pas d'accord. » Puis telle entrevue, telle chronique, c'était bon, j'aimerais ça que ça revienne. Vous le faites déjà.
Absolument. Et quand on a un droit de parole, qu'on te donne la chance de pouvoir t'exprimer, de parler directement au premier ministre, je pense quand même que il faut saisir l'occasion là, de dire ah oh, ben là finalement on n'ira pas.
Ça ne servait à rien. Tu sais, je veux dire, c'est
vraiment là, ça montre à quel point tu sais, ça manque de.
Le gars qui décide, il est devant toi là.
Ah non, c'est
fait
ça.
Que t'as
mais...
bien beau penser que t'auras pas une grosse influence, tu perds rien. Moi, tout ce qui le mieux qui pourrait arriver là, c'est que tu sèmes l'idée dans sa tête puis qu'il y ait quelque chose qui commence à pousser à un moment donné.
Ouais, puis moi je vois ça peut-être comme un manque de courage puis ben oui. Une perte de contrôle parce qu'à partir du moment où tu prends le micro, tu poses ta question, t'as pas le contrôle sur ce qu'il va répondre. Puis là, ben ça peut peut-être nuire à ton message, à toi. Écoute, peut-être que je vais trop loin dans ma réflexion.
Ben, ça se peut qu'il se sentait peut-être pas assez solide là pour aller argumenter avec lui là.
Ça fait
ça
oui.
Aussi, ça peut donner cette impression là.
Très bien, mais ben en même temps, c'était pas des débats, c'était vraiment des questions. Mais moi, j'avais envie de dire tel les prix qu'ils croyaient prendre, parce qu'effectivement, c'est des groupes qui aiment beaucoup jouer avec l'opinion publique, avec le message dans les médias. Puis, tu sais, ils sont toujours très, très courtois, puis il y a toujours juste un porte-parole, M. Treggett en l'occurrence, qui parle aux médias parce qu'ils veulent vraiment contrôler le message. Et puis, ils arrivent là, puis ils se font accueillir de manière courtoise en disant vous êtes pas inscrit, on va vous autoriser quand même, vous allez quand même pouvoir poser vos questions. Juste enlever vos manteaux et vos cache-coups pour la sécurité. Oui, gardez-les vos trucs, puis oui, vos t-shirts et vos logos sur ton alliance, on s'en fout, gardez-les, aucun problème, let's go, venez-vous-en. C'est comme si là, tout d'un coup, il n'y avait plus de... C'est comme si il pouvait plus contrôler le message.
Est-ce qu'il s'attendait à se voir refuser l'accès pour revendiquer encore plus?
Ben oui, moi, je pense qu'il voulait plus faire un stunt avec ça, mais c'est comme si tu as des billets d'avion, puis juste au moment d'entrer dans l'avion, tu te dis, oh non, finalement, ça me tente pas. Je pars pas.
Parlant de stunt, parce que, en même temps, là, je vous raconte ça, puis je le pense, mais faut quand même pas penser que Justin Trudeau est parfait non plus. Les fameux brise-glace au chantier des villes, les fameux brise-glace dont on dit qu'ils sont en négociation, la réparation de brise-glace qui permettrait de redonner de l'emploi aux travailleurs de la Davie, j'ai failli me faire avoir cette semaine. Quand j'ai vu le grand titre, l'achat de brise-glace pourrait relancer la Davie, je me suis dit, bon, fallait qu'il passe dans le coin de pays pour réaliser que ça avait pas de maudit bon sens d'octroyer tous les contrats fédéraux au chantier de Vancouver pour au chantier d'Halifax. Ça fonctionne pas, c'est pas équitable. Jusqu'à ce que je lise un petit peu plus loin puis je réalise que c'est 300 employés pour les deux prochaines années. Rappelez-vous, c'est 800 personnes qui ont perdu leur job au mois de décembre, juste deux semaines avant Noël. Là. Puis il a fallu qu'ils engagent des lobbyistes à Ottawa pour faire pression sur le gouvernement pour dire « Hey, on peut-tu juste avoir notre part du gâteau? » Il en manque pas de contrats. Écoute, dans les milliards et les milliards qui ont été investis en infrastructures, il y en a de l'argent pour des les contrats navals, mais pas moyen d'avoir rien pour la dévie. Puis on nous dit « Ah non, mais les brise-glaces, on va vous faire réparer, s'inquiétez-vous pas, c'est beau, on prend ça en charge. »
Réparer,
pas construire.
Réparer. Parce qu'ils sont vieux, là, les brise-glaces. Ça en prendrait 2, 3, 9, d'après moi.
Mais ça reste que sur les 800 jobs qui ont été perdus, alors qu'on pourrait donner de l'emploi à ces gens-là, ça devrait pas être compliqué. Ben, c'est comme si on disait, encore une fois, on
essaye... Ça a été un peu de la poudre aux yeux, parce que tu vois, moi, j'ai entendu l'extrait où il disait, regardez, brise-glace, on va, c'est parti, vous allez avoir de l'emploi avec ça. Puis tu vois, tu me dis que
c'est même pas
finalement,
la
c'est pas tout à fait la vérité. C'est-à-dire qu'en creusant un peu, t'as découvert que ça vient en quelque sorte juste patcher ou, tu sais, donner une apparence d'implication.
Moi, ce que je trouve décevant, en fait, peut-être un peu choquant pour les travailleurs de la DEVI, c'est qu'on est à attendre une visite comme ça programmée, tu sais, une opération de relations publiques du premier ministre Justin Trudeau à Québec pour qu'enfin on puisse avoir un peu de réponse, alors que c'est plus qu'une opération visibilité, c'est plus qu'une opération marketing d'un gouvernement que de pouvoir sauvegarder des jobs comme ça. Tu sais, c'est la vraie vie là qui se passe. Là,
c'est des vrais jobs.
C'est une histoire qui se répète sans arrêt. Ouais. Ça fait combien d'années que ça traîne? Non, mais tu sais que la DEVI est en difficulté.
Puis rappelez-vous, l'un des plus grands lobbyistes de la DEVI en ce moment, c'est le maire Labeaume.
Ouais.
La DEVI est à Lévis. Combien de fois on a entendu dans la dernière année le maire Labeaume dire « Non, non, projet de transport. Non, non, moi je m'occupe de Québec, Lévis s'organise. » Parce que le chantier Lévis fournit aussi de l'emploi à Québec. Mmh. Les 800 jobs qui ont été éclairés au chantier Lévis, c'est aussi des fournisseurs qui sont à Québec, qui n'auront pas à fournir, c'est aussi... Et tous ces gens-là se retrouvent dans le pétrin. Et effectivement, Julie, tu fais bien de le mentionner, ils sont pognés pour attendre après que le fait que Justin vienne se pavaner puis prendre des selfies, tu sais, à Québec.
Mais en même temps, le maire Labeaume n'était pas à la marche de solidarité avant les fêtes. C'était le premier ministre Couillard qui était là. Même, il n'était pas là du tout, du tout. On ne l'a pas tant entendu parler que ça de la DEVI dans le dossier, là. En tout cas, depuis que les pertes d'emploi se font sentir.
Il n'était peut-être pas à la marche, mais il est sorti dans les médias. Ouais. Il a été questionné là-dessus, puis il a dit qu'effectivement, il fallait que le chantier DEVI ait sa part, puis que ça n'avait pas de bon sens, là. Mais en tous les cas, effectivement, il faut pas se laisser endormir parfois par certaines annonces, parce qu'on réalise que cette annonce-là concerne même pas la moitié des gens qui ont perdu leur job en décembre.
Ben, c'est souvent d'ailleurs la manière des politiciens, hein? De mettre ça bien beau.
On vous apprend rien ce matin en vous disant ça.
Mais là, c'est spectaculaire, je trouve.
C'est assez spectaculaire.
Vraiment, ouais. Vraiment. Ouais.
Julie, si on allait jeter un œil à l'actualité.
Oui, ben ce qui a retenu l'attention beaucoup, là, c'est certain. Hier, en ouvrant la télé, c'était dans tous les bulletins de nouvelles. Acquittement des trois ex-employés de la MMA au terme de leur procès. Évidemment, en lien avec le déraillement ferroviaire de Lac-Mégantic qui avait fait 47 morts. Alors, Tom Harding, Richard Labrie, Jean Demaître ont été reconnus non coupable de négligence criminelle par le jury. Et sur place au palais de justice de Sherbrooke, il y avait vraiment beaucoup de monde, et dont de la famille des victimes. Et il y avait le père de l'une d'elles qui s'est dit soulagé. C'est Jean Clusio. Et selon lui, les dirigeants américains de la MMA, en fait, c'est eux qui auraient dû faire face à la justice.
C'est pas les bonnes personnes qui devraient être là. Mais il demeure un fait que dans ces 4 ans et demi-là, ils ont brisé la vie de ces trois personnes-là. Ils méritaient pas ça, là. Tu sais, je veux dire, là, c'est pas pour faire un jeu de mots, là. C'est des êtres humains qui ont des familles, qui ont travaillé fort toute leur vie, là. C'est pas un tueur, là. On les a traités comme des tueurs.
Alors, beaucoup de réactions hier à la suite de ce verdict. Il y a aussi la mairesse de Lac-Mégantic qui dit, ben maintenant aussi, le gouvernement a sa part à faire en disant, finalement, répétant, ne plus vouloir qu'il y ait un train qui passe au centre-ville de Lac-Mégantic, qu'une voie de contournement qui soit finalement construite.
Moi, habiter à Lac-Mégantic, les gens font preuve, on parlait de résilience tantôt, les gens font preuve d'une extrêmement belle résilience, mais je serais furieux, moi. Je serais furieux que ce procès-là se termine. Ça, c'est une chose. Mais je serais furieux qu'on soit encore pas capable d'avoir une maudite voie de contournement, puis qu'il y a encore des trains qui passent au centre-ville après toute l'horreur que ces gens-là ont vécue, là. Il me semble que, encore une fois, là, on parlait de choses qui devraient pas être compliquées puis qu'ils sont, là. J'en reviens pas qu'on soit pas capable.
Il y a quand même, la compagnie est imputable là-dedans, puis d'autres, là.
La compagnie n'existe plus.
Ben, tu sais, c'est pour te dire à quel point ça
n'a pas de sens. N'existe plus. Puis Transport Canada là-dedans, ben écoute, c'est comme si, MMA, on peut pas les blâmer, puis eux autres, écoute, je comprends pas à quoi ils jouent, mais...
Es-tu allé à Lac-Mégantic depuis 2013?
Non.
Je suis allé pas cet été, l'autre. Puis le lieu où s'est produit le drame, ben c'est rasé, puis on est allé au Musique Café et tout. Mais il y avait quelque chose qui me rendait un peu mal à l'aise, c'est qu'on a placé, puis je pense qu'ils n'ont pas eu le choix non plus, puis ils ont dit aux gens, venez à Lac-Mégantic, faut que le tourisme continue de fonctionner. Mais il y a des gens qui ont une espèce de curiosité malsaine aussi. Mais en tout cas, moi, en tout cas, ce que je ressentais quand je les voyais poser des questions aux guides qui étaient là, as-tu connu des gens, tu sais, puis les gens veulent
les journalistes,
savoir. Non, les visiteurs. Visiteurs, ce que j'entendais là, de lieu touristique, là, finalement, où il y a un guide, une personne qui répond aux questions, mais les gens sont très...
C'est quoi le monument qu'il y a là? Ils ont laissé des wagons.
Ben, il y a une espèce d'allée en bois là qu'ils ont fait. Ils n'ont pas laissé de wagons. Pour l'instant, c'est un terrain vague. Puis, il y a une espèce d'endroit où on peut se recueillir. Et là, il y a le nouveau centre-ville de Lac-Mégantic où ils ont reconstruit des commerces et aussi le Musique Café. On est allé sur place. On a dit, on va consommer. On va quand aller prendre un repas là. Mais il y a des gens qui font juste entrer et sortir. Tu sais, ça amène des curieux ou ça amène des questions qui sont, selon moi, en tout cas, lourdes à chaque fois à répondre. Tu connais-tu du monde?
La démarche n'est peut-être pas toujours la bonne.
Oui, c'est ça. T'sais, moi, je le vois plus comme un lieu où on y va, on se recueille à la rigueur, tu sais, puis on faut être respectueux des lieux. C'est ça que je veux dire.
Il y a une différence entre se recueillir puis aller essayer de gratter
dans...
d'aller gratter dans la vie personnelle des gens. Puis...
Ce matin, j'ai trouvé bien que dans le Journal de Québec, on présente une page complète des victimes.
Oui.
Je pense que c'est important de quand même ramener ça aussi à l'épreuve, au chagrin, à la douleur, à la perte là, des gens, parce que derrière tout ça, il y a quand même des gens qui sont marqués à vie. Ça a été une épreuve terrible. Je pense que tu ne te remets pas de ça en quelques années. Là. C'est vraiment quelque chose d'épouvantable. Des familles complètes qui ont été décimées.
Ben oui.
Alors, moi, vraiment, j'apprécie aujourd'hui qu'on remette les visages de ces personnes qui ont perdu la vie pour ne pas oublier qu'avant tout, c'est un drame humain.
Mm-hmm. Ouais.
Mais on a l'impression que c'est un drame d'argent parce que dans le fond aussi, quand on voit que le procès mène à aucune accusation en termes
que le procès
la compagnie, le procès c'est ben alors
en
tu
soi,
dis ben finalement tu
sais
exactement,
tu sais, je veux dire en soi le procès il aurait pas dû avoir lieu, ça aurait dû être une commission d'enquête publique
pour le temps que ça a duré aussi,
hein. il y en a qui s'en sortent là-dedans. C'est clair. Je parle pas des trois accusés.
Le fameux président de la MMA, le gars qui a un nom pas prononçable, qui est allé faire son point de presse trois jours après, puis que...
Disparu dans la nature.
Ah oui, puis qui fait aucune empathie, aucun rien pantoute. Là. Tu vois que c'était un... En tout cas, c'était un bon Américain, là, qui... Je reproche pas aux gens d'être Américains, mais tu sais, c'est un gars qui s'en sacrait bien, là, tu sais.
Ben, tu sais, dans le fond, ce qui était important, c'était l'argent, puis c'était les économies, puis ça coûte pas cher. Pis...
Ah oui.
On poursuit avec ce qui se passe du côté de la rivière Saint-Charles.
Oui.
Autre drame, mais d'une vraiment moindre mesure, c'est que l'eau a recommencé à s'écouler dans la rivière Saint-Charles. On a réussi à dégager la moitié de l'embâcle. L'eau qui fait maintenant son chemin dans le lit de la rivière et non plus nécessairement dans la rue Saint-Léandre, comme c'était le cas cette semaine. Donc, les sinistrés ont dit qu'ils vont pouvoir peu à peu retourner dans leur résidence. D'abord, ils vont évaluer les dommages. Et déjà, des spécialistes qui l'ont fait aussi regarder là, comment ils vont pouvoir rebrancher l'électricité ou encore toute l'alimentation en gaz. Donc, dépendamment des dommages, il y en a qui vont pouvoir s'y réinstaller assez rapidement. Évidemment, s'il n'y a pas de risque pour leur santé. Il y a des pelles qui étaient toujours hier soir en opération pour dégager, transporter ailleurs les amas de glace qui sont situés sous le pont du boulevard Le Lièvre. Alors, ce sont des bonnes nouvelles. Évidemment, c'est à suivre. Il y a une grande opération de nettoyage là, qui vont s'amorcer pour ces 70 résidents qui avaient été évacués. Il y a Jack Singh qui était de retour en cour municipale à Québec hier. Le militant s'était fait arrêter lors de la manifestation du 20 août dernier. Il s'est présenté, lui, avec ses skis de fond. Il souhaitait... profiter de la neige durant une pause, durant les procédures. Son matériel, évidemment, qui a été confisqué par des policiers. Et donc, il était de retour en cour pour réclamer, entre autres, des renseignements audio, vidéo, captés lors de la manifestation du 20 août.
Si ça peut bien servir à une chose d'avoir un clown comme ça, présentement, qui fait des requêtes à pu finir, parce qu'on sait très bien que c'est pour faire étirer le processus, là. Si ça peut bien servir à quelque chose, là, écoute, Jordan aura servi à mettre en lumière les délais déraisonnables dans le système de justice. Mais Jack Gissing pourrait permettre aussi de mettre en lumière le fait que des fois, ça n'a pas de bon sens de laisser tout, passer toutes ces requêtes-là puis toutes ces bêtises-là. Il a amené ses skis. Puis ce qu'il disait, c'est là, moi, je suis interdit dans tel coin de la ville, en telle ou telle rue, tu sais, à peu près dans tel quadrilatère, qui finalement est pas mal, genre l'Assemblée nationale, le centre des congrès, là où ça manifeste d'habitude. Puis il dit, mais là, si je veux aller faire du ski de fond à tel endroit, puis là, je prends un autobus, puis je traverse la zone, est-ce que j'ai le droit? Puis là, il accumule les requêtes comme ça, fait que c'est long. Puis il invoque des arrêts de la Cour suprême. Il est préparé, là. Il invoque des arrêts.
Mais ça montre la stupidité à un moment donné aussi et à quel point il y a de l'administratif là-dedans qui est complètement ridicule.
Mais ça, il faut se dire, il faut voir le bon côté des choses puis se dire, ben au moins le fait que lui soit passé par là avec toutes ses élucubrations, ben ça peut servir à ce que on essaie de changer les choses du mieux qu'on peut. T'sais.
Absolument.
Une petite dernière, Julie, à part de ça?
Ouais, on parlait de clown, mais je vais vous parler de Trump. Excusez. Ouais,
ça peut quand même le lien peut se faire.
C'est tiré par le toupette.
Ah. Ouais. C'est sa fête aujourd'hui, il fête son premier anniversaire à la Maison Blanche. En un an, le président qui a fait des déclarations et posé des gestes qui ont été dénoncés par plusieurs leaders de la planète, de Londres à Ankara, en passant par Paris. Et Justin Trudeau, je pense que c'était hier son premier anniversaire, a essayé d'expliquer pourquoi il a choisi de ne pas réagir aux mots et aux décisions de Donald Trump.
Les Canadiens s'attendent de moi que je fasse ma job, que je sois là pour m'assurer que l'ALENA continue de bénéficier à notre économie. Ma job, c'est pas de me prononcer sur tout ce que quelqu'un dirait ou aurait dit ou aurait pas dit.
C'est la sagesse incarnée.
Les Canadiens.
Il me semble que c'était lent et réfléchi comme propos.
On entendait son père au début. Hey, là.
Oui,
vraiment,
tellement,
là, c'était Pierre-Éliott Trudeau. Ouais.
Ouais.
Oh, Isabelle, à la météo.
Non, je repense à des imitations de Moreau, de.
Oui.
Hein, de Pierre-Éliott Trudeau.
Moi, je t'en
bonjour. Justin. Justin.
Ah, puis je te parle de météo, puis je repense à Michel Hébert qui dit le vent qui souffle dans le Grand Canyon.
Ouais.
Les Canadiens m'ont demandé. Oh mon Dieu.
Alors, d'où aujourd'hui à Québec, une belle journée. Oups. Ma chaise qui descend toute seule. C'est comme si je disais quelque chose de pas vrai, ma chaise descend. Non, c'est doux aujourd'hui à Québec. Quelques passages nuageux. Un petit peu de neige ce matin, à peine quelques flocons. L'après-midi, par contre, le temps doux nous amène des averses de pluie. Alors, soyez prudents, ça va peut-être donner une belle petite gadoue. Maximum de 3 degrés. La nuit prochaine, moins 12. Demain, soleil avec quelques passages nuageux. Température de moins 7. Et c'est la même chose qui nous attend pour la journée de lundi. Présentement, c'est toujours zéro à Québec.
La chronique sport. Avec Kevin Dupont.
Mais le Canadien hier qui a remporté son match contre les Capitals de Washington, très surprenant, par la marque de 3-2. Max Pacioretty qui a marqué deux fois, inscrit le premier but et finalement le deuxième dans un filet désert. L'autre qui a marqué, c'est Tipol. Paul Byron.
Tipol Byron
qui, lui, a inscrit quand même son 13e de la saison pour un joueur qu'on est allé chercher de nulle part. Ben,
il fait balotage.
Il fait quand même le travail. Du côté des Capitals, ben, il y a Carson qui a inscrit donc son 6e de la campagne et également l'ancien du Canadien, Lars Seller, qui s'en va vers une saison de 20 buts tranquillement, pas vite. Il en a déjà rendu à son 10e. Il y a le gardien de but Antti Niemi qui a stoppé 24 arrêts parce que c'était le deuxième gardien donc qui évoluait devant la cage du tricolore hier. C'était son 3e départ. Et Max Pacioretty, ben, comme je vous en parlais, qui a justement été très spectaculaire donc devant pour mener les siens à la victoire. Je vous parle également de la victoire des Remparts de Québec hier qui l'ont emporté dans leur voyage au Maritime par la marque de 5-2 contre les Wildcats de Moncton. Ils ont lancé 38 fois contre le gardien adverse. Au tennis, il y a Simona Halep qui a eu très chaud aux internationaux d'Australie hier, qui, elle, l'a remporté contre l'Américaine Lauren Davis avec une victoire de 4-6, 6-4. Et tiens-toi bien, Paul, 15-13.
Hein?
Ça finit la partie en 3h45 minutes. Le troisième set a duré à lui seul 2h22. Halep a dû servir 4 fois pour le match avant de mettre fin finalement à la résistance. C'est un match qui a duré vraiment longtemps.
Tu sais, quand tu veux pas lâcher, là.
Non, c'est
15-13.
15-13, là, c'est.
C'est plus que deux sets en un.
C'est assez incroyable. Un qui veut pas lâcher non plus, c'est du côté du baseball. Je vous parle de Tim Tebow, tu sais, l'ancien carrière des Broncos de Denver puis des Jets de New York. L'année passée, il avait joué dans les filiales des Mets de New York. Mais là, cette fois-ci, on a annoncé qu'il l'invitait officiellement au camp d'entraînement. L'ancien carrière de la NFL, donc du football au baseball. Et il avait maintenu une moyenne au bâton de 226 la saison dernière. Et en terminant, ben, je voulais vous souligner le décès d'un grand homme du hockey, un célèbre chroniqueur, Red Fisher, qui travaillait pour la Gazette. Lui, il a rendu l'âme hier à l'âge de 91 ans. Il a suivi l'action du Canadien de 1955 à 2012. Puis sa première couverture de hockey, savez-vous, ça remonte à quand? C'est le 17 mars, justement, de cette année-là. C'était le soir de l'émeute au Forum de Montréal, à la suite de la suspension de Maurice Richard.
Ça, c'est sa première couverture.
Sa première couverture quand Maurice Richard avait donné un coup de poing à un arbitre.
Imagine le bagage de cet homme-là quand il écrit. Là.
Ouais, oui, effectivement. Puis il a couvert 17 des 24 conquêtes de la Coupe Stanley. Et il a été nommé aussi à l'Ordre du Canada le 29 décembre dernier. Donc, qu'il repose en paix, Red Fisher.
C'est vraiment fascinant. Et t'as raison de le mentionner, Isabelle. Tu sais, imagine, là, rendu en l'an 2000, quand il écrit, là. Il y en a vu passer, là. Il y en a vu couler de l'eau sous les ponts, là.
Il y en a vu des styles de joueurs, puis il y en a vu aussi des l'évolution, tu sais. À l'époque, Maurice Richard gagnait un salaire de 35 000 par année, avec des millions maintenant par saison pour des joueurs qui sont même pas si bons que ça. Mais bon, ça, c'est mon opinion, je ne connais pas bien, ben, OK? Mais je voulais dire quand même, il y aura sûrement, je ne sais pas si ça a été fait hier ou il y aura sûrement une minute de silence. Je pense qu'on l'avait. Est-ce que c'était hier ou c'est ce soir?
En fait, ça va être prévu justement dans les. Soit ce soir, dans les prochains jours,
ce soir,
dans
moi,
les
années. Ouais. C'est ça.
Au retour de la pause, l'éditorial de Mathieu Boivin.
Que Québec se lève.
De retour après la pause. Étoile 93.3 pour signaler un problème sur la route. Pour intervenir en onde. Pour réagir. Composez Étoile 93.3.
Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec et Rive-Sud vous offrent 5 classiques à seulement 10$ au resto, à la livraison ou au comptoir, dont le hot chicken, le club sandwich et la poutine Saint-Hubert.
Le cégep de Lévis-Lauzon, c'est 10 programmes préuniversitaires, dont 2 doubles decks en sciences de la nature et langues et sciences humaines et langues. Le taux d'admission définissant dans les programmes universitaires contingentés comme médecine est supérieur au réseau collégial. Porte ouverte mercredi de 16h à 20h. Lévis-Lauzon, un cégep performant.
Maison Adam.
Vivez les grands événements sportifs et télévisuels en grand format grâce à Maison Adam. José vous offre le système de cinéma maison 5.1 sans fil Bose à 2000$ avec un rabais de 200$ et payable en juillet 2018. Pour faire le bon choix et être bien servi, passez voir José Adam et son équipe d'experts à la Maison Adam au 710 rue Bouvier.
Maison Adam. Dans la technologie.
Vos dettes vous empêchent de dormir?
Je pense tout le temps à ça. Je me sens coincé de partout.
Les factures ont commencé à s'accumuler, puis je suis de moins en moins capable de payer.
Il y a un mot qui me revient tout le temps. Faillite, faillite, faillite.
Dormez sur vos deux oreilles. Appelez Jean Lelièvre Syndic, autorisé en insolvabilité. Leurs experts vont vous écouter et choisir avec vous la meilleure solution, qui n'est souvent pas la faillite, mais plutôt une proposition de consommateur.
Jean Lelièvre Syndic, autorisé en insolvabilité, les spécialistes pour rétablir votre situation financière.
Visitez jeanlelièvresyndic.com.
Hey, je viens de prendre une décision. Je vais changer mon trio Internet TV téléphone. Ouais, je suis décidée et je passe à Oricom. Je te dis que leur trio à 70$ par mois, ça me tente pas mal. Dans le fond, c'est le même Internet, les mêmes postes de télé et le même téléphone. Puis, je vais couper ma facture en deux. Ouais, ça, c'est brillant. Ça me tente. Toi aussi? Appelle Oricom Internet.
Oricom Internet. 683-4557 ou visitez oricom.ca. Cogeco Média est fier de souligner le succès retentissant d'une entreprise de Québec.
La chaîne de lunetterie Scoop Vision.
Le concept de Scoop Vision est simple. Offrir aux gens les lunettes les moins chères, point à la ligne. Donc, des lunettes au prix d'Internet, mais avec tous les avantages d'une succursale, dont le suivi par un professionnel de la vue. Le succès est instantané, si bien que Scoop Vision ouvre déjà sa troisième succursale, cette fois-ci à Saint-Georges. Lors de votre examen de la vue, demandez votre prescription et apportez-la chez Scoop Vision. Faites votre choix parmi plus de 1000 montures et vous repartirez avec vos lunettes une heure plus tard. Et le prix? À partir de $79.
Scoop Vision, sur Soubonde, près du Pacini, 63 Kennedy-Lévis et maintenant sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges.
Scoopvision.ca.
Vous aimez le sommeil? Vous recherchez une meilleure carrière? Vous êtes sympathique et avez de l'ambition? Bonjour, ici Sophie, experte en sommeil chez Dormez-vous. Nous sommes présentement en période de recrutement pour de nouveaux associés aux ventes à temps plein, sans expérience requise. Nous fournirons une formation continue pour vous aider à réussir dans un environnement de travail agréable, avec d'excellents avantages sociaux de soins de santé, sans oublier le potentiel salarial le plus élevé de l'industrie. Voyez nos offres d'emploi à dormez-vous.com et appliquez dès aujourd'hui.
Le meilleur deal pour un repas toutes catégories confondues,
c'est la 14 pouces à 11,99 de Domino's Pizza.
C'est juste imbattable. À tous les jours, la 14 pouces avec 4 garnitures à votre choix est à seulement 11,99. Commandez maintenant sur dominos.ca.
FM 93. Vous êtes un gagnant? Alors vous êtes d'abord un participant. C'est votre tour.
À tous les parents qui se construisent une patinoire derrière la maison, inscrivez-vous sur fm93.com ou sur Facebook et vous pourriez voir débarquer chez vous
l'Escouade Boom!
L'équipe du FM 93, Pizza et Breuvage, et on joue une partie sur votre patinoire. Collaboration Labatt, Domino's Pizza et l'Entrepôt du Hockey.
Le FM 93, concours. FM 93.
Paul Raphaël réveille les gens de Québec. Vous écoutez Que Québec se lève.
Que Québec se lève au FM 93.
On essaie une nouvelle formule à Que Québec se lève. D'abord, je suis très content de pouvoir réaccueillir Mathieu Boivin pour sa chronique hebdomadaire. Salut Mathieu!
Salut Paul, t'as pas mis ma petite sifflette là-haut sur la colline?
Non, puis je vais m'en ennuyer ta petite sifflette là-haut sur la colline, mais c'est parce que t'es plus sa colline, qu'est-ce que tu veux?
Voilà, exactement.
Ça fait que là, on t'a demandé à chaque semaine, puisqu'on appréciait beaucoup ta collaboration, on t'a demandé de quand même être avec nous autres, mais de nous faire un petit éditorial sur les nouvelles du jour.
Oui, exactement. Ben, en fait, c'est toujours approprié parce que je fais les nouvelles dans l'émission du retour, comme les auditeurs l'ont peut-être remarqué. En tout cas, je l'espère. Et ben, justement, c'est le mandat que je me donne. Regardez les nouvelles courantes. Souvent, c'est les nouvelles du matin même. Des fois, je peux revenir aussi sur quelque chose qui a attiré l'attention hier. Puis c'est le cas avec mon premier sujet ce
matin. Ben oui, c'est sûr que l'acquittement des accusés de Lac-Mégantic, on en parle encore beaucoup ce matin. C'est encore...
Avec raison. Raison. Écoute, quand la nouvelle est tombée, d'abord, on a eu une espèce d'alerte. Là, on nous dit, hey, le jury est revenu dire au juge, on est prêt à rendre un verdict. Donc là, tout le monde est sur le bout de sa chaise, on retient notre souffle. Puis d'une certaine façon, puis je pense que c'est normal, on a tous l'impression qu'il faut que quelqu'un paye pour ça, puis on est fait comme ça le plus vite possible.
Ouais.
Alors, on s'attendait à ce qu'il y ait un jugement de culpabilité de négligence criminelle ayant causé la mort. Hey, si le conducteur qui a pas mis les freins, si le contrôleur qui a pas donné les bonnes indications sont pas coupables, qui va l'être? Ben là, surprise, on a eu le souffle coupé, le jury n'a pas été capable, les 12 personnes n'ont pas été capables de dire tous ensemble d'accord, oui, unanimement, on te déclare coupable, toi, Tom Harding, le conducteur, Richard Labrie, le contrôleur de trafic, puis Jean Demaître, le directeur des opérations. Donc, les trois hommes sont libres comme l'air. Évidemment, ils ont ça sur la conscience pour le restant de leur jour. Ça, c'est une punition qui est non négligeable. Mais nous, plus globalement, on s'attendait à ce que quelqu'un paye. Puis là, il n'y a personne qui paye pour ça. Mais tu sais, c'est peut-être le prix à payer pour l'instant, notre déception, pour qu'on règle les choses pour vrai.
Parce qu'il y a bien des analystes qui ont dit, depuis le début, ce procès-là aurait jamais dû avoir lieu. C'est une commission d'enquête publique qu'on aurait dû avoir parce qu'il aurait fallu qu'on cible Transport Canada et la MMA.
Exactement. Rappelez-vous la face de carême de Ed Burkhart. Rappelez-vous là, ouais, le gars, la face en galoche, qui s'avait pris des jours avant qu'il arrive à Mégantic puis qui avait l'air à se ficher de tout le monde, là. Ouais. Lui, là, qu'est-ce qu'il a à rendre comme compte? Qui a revu Ed Burkhart dans les nouvelles depuis l'été 2013, l'été de la tragédie? Personne.
Ah non, pis
lui, il doit continuer à faire de l'argent avec des compagnies qui pressent comme des citrons, qui négligent les installations, qui négligent la sécurité. Puis il doit continuer encore comme un vrai bon corporate raider à faire de l'argent comme il l'a toujours fait, en attendant la prochaine tragédie. Nous, évidemment, comme tout ce qu'on avait à se mettre sous la dent, c'est le procès des trois gars qui étaient sur le terrain, ben on se disait, c'est comme ça qu'on va se venger.
Ben oui.
Et là, la justice est en train de nous dire, un instant. Puis d'ailleurs, les jurés ont posé des bonnes questions aux juges cette semaine. Quand ils sont revenus, ils ont dit, dites-nous c'est quoi la différence entre ce qu'eux ont fait et ce que n'importe qui d'autre de raisonnablement constitué aurait fait dans les mêmes circonstances. Là, on se rendait bien compte qu'il y avait Ben, je dis un problème entre guillemets, on se rendait bien compte qu'il allait avoir de la difficulté à dire que ces gars-là avaient été vraiment criminels dans leur dans leurs agissements.
C'est ça que c'est ce que les analystes aussi disent, hein, c'est ce que les avocats disent. Démontrer la négligence criminelle, c'est extrêmement difficile parce que
ben oui.
Oui, Tom Harding a probablement fait une erreur. Maintenant,
c'est clair.
Il faut démontrer que d'autres personnes de compétences égales auraient ou n'auraient pas fait la même erreur que Tom Harding.
Donc, là, c'est ça. Le jury en est arrivé. On a pressenti que c'est ça qui se préparait, mais on a quand même été surpris. Le jury a décidé que non, ces gars-là n'ont pas été que des criminels. Ils ont juste été les rouages d'un système qui va pas bien. Mais alors là, on est tous déçus, sauf les gens de Mégantic. Les gens de la Mégantic le disaient au sortir de la salle d'audience. C'est pas eux autres les vrais coupables. Les vrais coupables, tu les as nommés, c'est Transport Canada qui accepte que des compagnies de broche à foin fassent de l'argent en investissant pas ou en investissant trop peu dans la sécurité et dans leurs installations. Voilà. Alors là, si cette affaire-là doit avoir des suites, il faut que ce soit dans des changements réglementaires, l'encadrement, les voies de contournement aussi. Mais ça, ça coûte une fortune. Puis juste en passant, ça va nous mettre un peu le nez dans notre caca aussi, là. Parce que le problème, c'est les matières dangereuses qui circulent par rail.
Ouais.
Mais ces matières dangereuses-là, il pourrait y avoir d'autres façons de les transporter, mais on n'en veut pas. Tu sais, là, les pipelines... Ça arrive pas, là, les explosions de pipeline. Le pire qui peut arriver, puis c'est plate, c'est pas souhaitable, mais le pire qui peut arriver, c'est un déversement.
Ouais.
Les explosions, ça arrive pas. Alors là, à un moment donné, il va peut-être falloir regarder nos propres contradictions aussi. Oui, oui, je veux bien une voie de contournement à Lac Mégantic, ça va coûter une fortune, mais on leur doit bien ça. Mais dans toutes les autres petites villes qui ont été construites autour des voies ferrées, les voies de contournement, ça va coûter une beurrée, là, on n'a pas forcément moyen de ça. Alors, peut-être, encore une fois, qu'il va falloir regarder un peu dans notre propre cours nos contradictions, puis se dire, ben regarde, peut-être sans... que les pipelines, c'est pas si pire, finalement.
Mathieu, sans doute qu'en quelque part, faire cette démarche-là, puis en arriver à ces conclusions-là, on n'est pas... Tu sais, dans le fond, on voit bien que pas personne ne veut la faire. Là. Il y a comme... Là-dedans, il y a comme quelqu'un qui
se cache. Ça aurait été plus facile de se satisfaire d'un verdict de culpabilité de trois pauvres diables, puis dire, OK, justice a été rendue, on peut penser à d'autres choses. Mais là, ça nous met le nez dans notre caca,
ouais,
puis nous forcer à réfléchir. Non, si vous voulez, si vous êtes sérieux, pas juste blabla, là, si vous êtes sérieux pour régler le problème, regardez les vraies causes, puis regardez vos propres contradictions. Alors voilà où on en est, à mon avis, ce matin dans ce dossier-là.
Mathieu, je pensais pas que la controverse pouvait... en fait, que le mystère pouvait s'épaissir encore plus autour de l'UPAC, mais
écoute,
il semblerait que c'est le cas.
Écoute, là, on a appris cette semaine... Parce qu'il y a des affidavits. À toutes les fois que la police veut arrêter quelqu'un, il faut qu'elle demande à un juge un mandat de perquisition, etc. Dans les documents que l'UPAC a soumis pour arrêter Guy Ouellet, tu te rappelles toute la controverse?
Oui, absolument.
Ces mandats de perquisition-là étaient appuyés sur un affidavit. Là où la police explique au juge pourquoi c'est important d'aller saisir du stock chez cette personne-là.
Ouais.
Là, ces affidavits-là, ils nous ont révélé, on s'en doutait que l'UPAC soupçonnait Guy Ouellet d'être de mèche avec d'autres pour... divulguer de l'information confidentielle des enquêtes de l'UPAC aux médias. Ça avait filtré ça, puis même Robert Lafrenière l'avait dit l'automne dernier, on l'a arrêté parce qu'il était sur le bord, puis il avait déjà commis, puis il était sur le bord de commettre encore des divulgations illégales.
Ouais.
Mais ce qu'on a appris, par contre, puis ça a mis tout le monde sur le derrière, c'est que M. Ouellet et ses autres les autres personnes qui étaient arrêtées en même temps que lui, pouvait avoir comploté pour influencer ou négocier une nomination. Hein? Personne n'avait rien soupçonné de quoi que ce soit de ce genre-là dans cette affaire-là. Mais nomination de qui? Mais nomination de quoi? La seule personne qui a eu une nomination dans le dossier de l'UPAC, c'est Robert Lafrenière lui-même.
C'est ça que j'allais dire. C'est le commissaire
et on
du
se souvient,
PAC.
Rappelle-toi, c'était pas acquis pour M. Lafrenière. Pendant un bout de temps, le gouvernement branlait dans le manche. Il a fini par être renommé, reconduit dans ses fonctions, mais il paraît qu'à un moment donné, c'était vraiment pas le choix du gouvernement. Et là, on apprend que Guy Ouellet et les autres qui ont été ciblés par l'UPAC pourraient avoir comploté pour négocier ou influencer une nomination. Qu'est-ce que c'est ça? Incroyable! Incroyable! Et là, hier, on apprend encore, M. Lafrenière, quand on demande pourquoi il y a des députés péquistes Pascal Bérubé puis caquistes Éric Kerr qui devaient être rencontrés par l'UPAC et qui ne l'ont pas été, la question est posée à M. Lafrenière. Pourquoi est-ce que finalement ces députés-là n'ont pas été rencontrés? Il dit « Ah, ben l'Assemblée nationale nous a envoyé une lettre pour dire qu'il y avait une immunité parlementaire sur les députés, donc on les a pas rencontrés. » Mais le problème, c'est que c'est pas vrai. L'Assemblée nationale a envoyé une lettre pour dire « On n'a jamais demandé ça. » le commissaire Lafrenière utilise de faux prétextes pour expliquer sa conduite. Là, il y a quelque chose, là. Monsieur Lafrenière, c'est lui-même là, qui est encerclé par la controverse. Je comprends pas. J'aimerais ça être capable d'expliquer aux auditeurs le fin puis le jeu après jeu de toute cette affaire-là. Mais là, ça prend une direction en quelques heures, totalement inattendue, qui pointe vers M. Lafrenière.
Non, puis on vient qu'on sait plus par quel bout de prendre ça. Moi,
qui les bons? C'est qui les pas bons?
C'est ça,
qui,
exact.
Qui croit?
Je t'écoute, je lis les nouvelles, j'essaye de suivre ça du mieux que je peux, mais à un moment donné, il y a tellement de confusion puis de flou autour de ce corps policier-là, du fonctionnement, des arrestations qu'ils font puis des accusations, pourquoi il y en a, pourquoi il y en a pas, que honnêtement, là, c'est comme une pieuvre que t'arrives pas à saisir puis qui te glisse tout le temps entre les doigts, là.
Ben, c'est parce qu'en plus, le danger, c'est toujours la perte de confiance.
Ben, c'est clair.
Si d'aventure, il arrive à un moment donné à un verdict ou à des accusations ou à pas d'accusation, puis qu'ils nous disent les raisons, vas-tu les croire encore? Monsieur Lafrenière a fourni un prétexte hier. L'Assemblée nationale, pas n'importe qui, l'Assemblée nationale lui dit c'est pas vrai. Hey! Excuse, mais il va te rester quoi comme crédibilité à un moment donné, là? Il n'y en a pas de carte de crédit, sa réputation, là. Une fois que tu l'as perdu, tu l'as perdu. En tout cas, il va avoir des explications à fournir, M. Lafrenière, parce que cette histoire-là de perquisition puis d'arrestation de Guy Ouellet, présumément aussi pour un complot visant à influencer ou négocier une nomination, là, ça peut pas rester de même. C'est quoi cette affaire-là?
Hey Mathieu, toujours très, très intéressant d'avoir ton point de vue. Maintenant, un peu plus ton point de vue quand même, dans cette forme un petit peu plus éditoriale sur l'actualité du jour. On remet ça la semaine prochaine.
Ben avec plaisir.
Merci, bye-bye.
Salut, là.
Mathieu Boivin, journaliste et maintenant chroniqueur éditorialiste au FM 93.
Que Québec se lève.
Que Québec se lève.
De retour dans quelques instants.
FM 93.
La chronique Auto 360 avec Dan Boudreau.
Bonsoir les sportifs.
Vice-président en communication Bernard Brisset, ce que tu vas dire, on change de DG?
Je pense qu'il y a quelqu'un qui doit être imputable d'une saison aussi pourrie que ça. Je pense bien que Bergevin va payer pour ça. Ce gars-là n'a pas livré. Tu sais, il y a eu quoi? Une bonne saison d'un 6 qu'il y a là. Puis c'est à peu près tout. Le point majeur qu'il devait régler de façon urgente, c'était de trouver un joueur de centre numéro 1. Puis on est 6 ans plus tard, puis il n'a pas réglé.
Bonsoir les sportifs. En semaine, dès 20h30, au FM 93.
Toux bronchique, maux de tête causés par la congestion des sinus? Quand apparaissent les symptômes d'une bronchite ou d'une sinusite, Gélomyrtol peut vous aider. Gélomyrtol soulage temporairement les symptômes associés à la toux bronchique le jour ou la nuit. Il agit aussi comme traitement de soutien pour aider à soulager les symptômes de la sinusite aiguë. Demandez-le à votre pharmacien ou consultez gélomyrtol.ca. Gélomyrtol avec un Y.ca. Peut ne pas vous convenir, toujours lire et suivre l'étiquette.
À votre nouveau Kia Lévis, on est vraiment fait pour profiter de l'hiver. Et vous? Jouez dans la neige comme jamais avec le Sorento offert à seulement 73$ par semaine grâce à un taux de 0% et un boni de Kia Lévis de 750$. Seulement 73$ par semaine pour aimer l'hiver en Sorento. Merci Kia Lévis.
Financement sur 84 mois à contre-qui de 2550$ ou échange équivalent.
Le nouveau Kia Lévis.
Vivez les grands événements sportifs et télévisuels en grand format grâce à Maison Adam. José vous offre le téléviseur intelligent 75 pouces Dell 4K de Samsung à 2124$ avec 900$ de rabais et payable en juillet 2018. Pour faire le bon choix et être bien servi, passez voir José Adam et son équipe d'experts à la Maison Adam au 710 rue Bouvier.
Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.
Est-ce que le blues de l'hiver vous démoralise? Alors profitez du solde échappé au blues de l'hiver de Sunwing. Économisez jusqu'à 60% sur les forfaits vacances les mieux cotés. Envolez-vous avec le numéro 1 dans le sud et découvrez le service primé. Réservez d'ici le 26 janvier avec votre agent de voyage ou sur...
Chaque semaine, écoutez la capsule « La santé de nos finances » avec Pierre Fortin, syndic chez Jean Fortin et Associés. Évitez les problèmes financiers, ce n'est pas si compliqué. C'est un rendez-vous chaque lundi dans Bouchard en parle.
La grande vente se poursuit dans les boutiques Claire France Taille Plus. Pantalons, blouses, gilets et accessoires à partir de $15.99. Magasinez dans l'une de nos 70 boutiques ou à clairefrance.ca. Claire France, pour une mode surprenante.
La route est difficile aujourd'hui. Avec la neige, les conditions routières sont mauvaises. Il faudra user de prudence. Oh, un véhicule arrive à vive allure, il dérape dans le virage et termine dans le pare-choc de la voiture devant lui. Non, pas de chance. En cas d'accident, faites confiance à Carrossier Procolor, le réparateur d'époque du Québec.
Vos lunettes les moins chères, vous les trouverez chez Robert Laforce, opticien. Apportez votre prescription, sauvez des centaines de dollars et repartez avec vos lunettes en moins d'une heure. Robert Laforce, depuis 50 ans. Nouvelle adresse, maintenant au 4821 de Lormière, voisin de Tanguay. Robert Laforce.ca.
Au cégep de Lévis-Lauzon, le taux de placement moyen dans leurs 17 programmes techniques est de 98 %. Découvrez des programmes tels que biotechnologie, bureautique, architecture, génie chimique et bien d'autres lors des portes ouvertes ce mercredi de 16h à 20h. Lévis-Lauzon, un cégep performant.
Tartare de marlin, saumon ou bœuf, tentant. Cet hiver, le 47e parallèle vous offre ses réputés tartares à seulement 15 $ tous les jours, midi et soir. 15 $ pour un tartare seulement au 47e parallèle jusqu'au 10 février, voire le 47.com.
C'est la vente plaisir d'hiver à la vie sportive. Ski alpin, ski de fond, planche à neige ou raquettes, de tout, pour tous, vêtements et équipements, jusqu'à 60 %. Lunettes de snowboard à partir de 39,99 $. Casque de ski à seulement 49,99 $. Magasiné parmi les plus grandes marques, dont Arc'teryx, Burton, Oakley, Patagonia, Salomon, Sorel et The North Face. Pour profiter des plaisirs d'hiver en famille, passez à la vie sportive. 600 rue Bouvier et viesportive.com.
FM 93 est là pour vous partout. Une grande radio. FM 93, l'actualité sans compromis. Le matin, Québec se réveille avec Paul-Raphaël Charon.
Que Québec se lève.
Que Québec se lève.
Julien, on a une nouvelle de dernière heure qui vient de sortir.
Oui, Paul Bocuse, surnommé le pape de la gastronomie française, qui l'a incarné durant des décennies dans le monde entier, est mort. Et c'est ce qui a été annoncé sur Twitter par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, ancien maire de Lyon. Donc, bon, c'est une icône, ni plus ni moins, ben oui, de la gastronomie. Là,
un des plus grands chefs au monde. Ouais. Pensez-vous que Giovanni Apollo va être invité à ses funérailles? ou Jean-Claude,
Jean-Claude Apollo. Excuse-toi. Là,
non, c'est, mais tu sais, Jean-Claude, c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit qu'il avait été à l'école de Paul Bocuse. Ouais. Puis
ça, ah ben, il a fait bien des affaires, lui. Hein? Ouais. C'est ce qu'il dit. Là. Il a vécu longtemps aussi. Hein?
On va lui demander. Il pourrait nous faire un reportage en direct.
On a la chance d'avoir une collègue qui a couvert le fameux procès de Lac-Mégantic du début jusqu'à la fin. Il s'agit de Marie-France Martel, journaliste que j'ai connue à Sherbrooke. Elle est au bout du fil. Bonjour Marie-France.
Bonjour à vous.
Alors hier, c'est le grand jour. On a finalement une décision. Le jury a terminé ses délibérations. On apprend que les trois co-accusés sont acquittés. Est-ce que tu as été surprise du verdict?
Oui et non. C'est sûr que avec 9 jours de délibération, tout était possible, hein, parce que là, plus c'est long, certains disent ça augure pas bien pour les accusés. Mais bon, d'un autre côté, le jury prend son temps, prend son travail très au sérieux. Et il y a une question qui était venue en toute fin d'avant-midi concernant les écarts de conduite, les écarts de comportement avec des employés qui occupaient les mêmes fonctions. Et là, ça pouvait laisser penser que là, cette fois, le jury se dirigeait vers des verdicts de non-culpabilité, mais tant que c'est pas rendu officiellement, on peut pas rien affirmer. Mais là, c'était sous le coup de 14h10, 14h30, donc les verdicts qui sont tombés d'acquittement, et à chaque fois que celui qui était désigné là par le jury pour prononcer les mots non coupable pour Tom Harding, pour Richard Labrie, pour Jean Demaître, c'était un immense soulagement. On pouvait le lire sur leur visage, ça réagissait dans la salle aussi. Donc, on parle d'acquittement pour des accusations de négligence criminelle causant la mort. Et c'est ce qui n'était pas évident parce que cette accusation-là, c'est vraiment, faut se mettre dans la tête des gens au moment où l'infraction a été commise. Est-ce qu'ils ont commis un écart marqué, un comportement hors norme? Donc, les jurés qui se sont penchés longuement là-dessus. Et tout de suite après, on a tenté d'avoir des réactions de la part des trois accusés.
Et Jean Demaître, oui? Julie et moi, on regardait la couverture d'LCN. Puis on voyait d'ailleurs le micro de Cogeco passer une fois de temps en temps dans les témoignages des trois co-accusés. Et l'ambiance paraissait très, très pesante. Toi, tu as couvert le procès depuis le début. comme journaliste, quand finalement on apprend que le verdict va tomber puis qu'on va parler à ces gars-là, est-ce que c'est difficile de mettre un peu nos émotions de côté?
C'est difficile, puis c'est qu'on leur, on les a croisés dans les corridors. Hein. Il y a eu quand même 9 jours de délibération. On était sur place tous les jours. Eux étaient à côté de nous dans les corridors et on a discuté brièvement avec eux à certains moments, avec leurs avocats. Et on a pu voir un peu une facette différente parce qu'eux ont vécu ça difficilement, bien entendu, d'être mis au banc des accusés comme ça. Et lorsque on a eu cette annonce de verdict, effectivement, la tension, de par le fait, la longueur du procès, la longueur des délibérations, la tension était très vive et on avait tous hâte de savoir ce qu'il allait advenir de ces trois hommes-là qui s'attendaient, s'il était trouvé coupable, à possiblement faire de la prison parce que c'est passible de prison, cette accusation-là. Alors, pour eux, l'enjeu était très grand et oui, ça a été très, très émotif. Et un qui a été émotif, un des trois accusés, c'est le contrôleur ferroviaire, Richard Labrie, qui, lui, s'était préparé un petit mot qu'il voulait adresser à l'égard de la population de la Mégantic. Alors, on peut écouter ce qu'il avait à dire.
Aux 47 victimes, puis à tous les gens de Mégantic, j'espère que vous avez eu les réponses que vous demandiez avec ce procès-là. Malgré que je n'ai jamais parlé, j'ai toujours pensé aux autres. Et puis, je voudrais dire que les gens de Mégantic, avec ce qu'ils ont eu, ils nous ont montré beaucoup de courage, beaucoup d'entraide et puis beaucoup de résilience. Et puis, je les remercie beaucoup.
Marie-France, on n'a que très peu de temps ensemble ce matin. Alors, oui. Je veux quand même qu'on écoute ce que le procureur de la Couronne avait à dire quand même. Je pense qu'ils n'ont pas le choix d'accepter la décision, mais ils n'ont pas dit s'ils comptaient aller en appel ou pas.
Non, effectivement, ça n'a pas été mentionné. C'est maître Véronique Beauchamp qui a pris la parole. Il faut dire qu'ils étaient 4 procureurs de la Couronne tout au long du procès. Et bien sûr qu'ils avaient travaillé pendant de longs mois. Ils étaient convaincus là que la preuve avait été faite hors de tout doute. Alors, on peut écouter les propos de maître Véronique Beauchamp de la poursuite.
Donc, vous comprendrez que ce n'est pas nécessairement la décision que l'on attendait, mais nous respectons les verdicts qui ont été rendus et surtout le travail qui a été fait par les membres du jury, qui ont été très attentifs tout au long des procédures. Nous avons une pensée pour les familles en ce moment. Alors, on espère qu'ils auront la sérénité là, requise là, pour continuer.
J'imagine que tu vas... Oui, vas-y, Marie-France, vas-y.
Et il y avait des gens, des proches, des victimes qui ont suivi aussi le procès, toutes les procédures. Et la réaction, je vous dirais, c'est qu'ils avaient de la sympathie pour les accusés parce que, selon eux, ce n'était pas ces trois hommes-là qui étaient responsables en entier de la tragédie. Ça allait au-dessus d'eux, ça allait à la MMA, ça allait à Transport Canada. Donc, ils s'attendent maintenant à ce qu'il y ait une amélioration de la sécurité ferroviaire à la suite de tout ça. Et pour eux, ces trois hommes-là, Richard Labrie, Tom Harding et Jean Demaître, c'était pas seulement eux, c'était eux qui avaient été mis au banc des accusés, qui étaient un peu les figures de la tragédie, mais maintenant, ils attendent des réponses. Et ça doit revenir le 5 février prochain au Palais de justice de Lac-Mégantic parce qu'il y a des accusations sur le plan fédéral qui ont été portées contre les trois accusés et des hauts dirigeants de la MMA, des accusations sur la loi sur les pêches pour avoir déversé le pétrole et la loi sur le transport ferroviaire. Il y aurait possiblement une entente. Et c'est le 5 février là, qu'on va le savoir à Lac-Mégantic.
On leur souhaite au moins d'être capable de retrouver un peu l'anonymat. C'est d'ailleurs ce que mentionnait M. Labrie dans son allocution. Là.
Marie-France, pouvoir passer à autre chose.
Ouais, oui, mes salutations sincères. Hier, je pensais à toi quand je voyais tout ça se dérouler. Puis je me disais, elle est dans le jus, mais pas à peu près.
l'oreille me chauffait avec le téléphone. Ouais. Mais c'est tellement des moments importants comme journaliste pour vrai. J'ai adoré. C'est sûr que c'est pas des événements qui sont agréables, mais d'être là, d'attendre, de voir tout ce côté humain, puis aussi d'en apprendre sur le plan de l'industrie ferroviaire, la réglementation, les jurés, comment on les a vus travailler, comment ils revenaient les traits tirés, de voir tous ces gens-là graviter, ça a été un beau moment dans ma carrière journalistique, je vous dirais.
Je te lève mon chapeau.
On va te laisser aller te reposer un petit peu, Marie-France.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir pris du temps avec nous ce samedi matin quand même, c'est pas rien. Merci Marie-France. Marie-France Martel, journaliste Cogeco Nouvelles à Sherbrooke.
Showbiz avec Isabelle Junot.
On revient ce matin sur la chanteuse irlandaise Dolores O'Riordan qui est décédée en début de semaine. Ça a vraiment été une nouvelle qui a frappé tout le monde, évidemment, à l'âge de 46 ans. On s'attendait vraiment pas à ça.
46 ans.
C'est extrêmement jeune, mère de 3 enfants. Et là, ce qu'on sait, c'est que, bon, d'abord, elle va être enterrée ce mardi en Irlande. Une messe qui aura lieu à Ballybracken, c'est dans le sud-ouest donc de l'Irlande, à peu près à 18 km de Limerick, où le groupe d'ailleurs s'est formé. Alors, l'enterrement sera réservé à la famille. Par contre, le public va pouvoir se recueillir le dimanche précédent. La messe également sera diffusée en direct par la radio locale de Limerick, Limerick FM. Alors, s'il y a des gens qui veulent aller sur les internets pour pouvoir écouter ça.
Oui, les applications, TuneIn.
Avec, oui, absolument. Puis, c'est facile maintenant d'écouter de la radio partout à travers le monde. Il y a évidemment, concernant les raisons de sa mort, c'est là qu'on s'explique pas encore ce qui s'est passé. Il y a des examens post-mortem qui ont été réalisés, mais les résultats devraient être connus seulement début avril. Alors, ce sera encore assez long pour savoir ce qui a mené à sa mort. Semblerait que c'est une mort accidentelle. En tout cas, il n'y a pas de cause suspecte reliée à sa mort. C'est également pour elle, je veux dire, pour toute la communauté, un groupe qui a été important, évidemment, dans les années 90, 40 millions d'albums vendus à travers le monde, de gros succès, dont Linger, d'ailleurs, qu'on vous fait entendre en extrait. Évidemment, il y a eu Zombie, Just My Imagination et plusieurs autres. Et sachez que les ventes et les écoutes en streaming, ça arrive souvent comme ça quand un artiste décède. Ouais. Des Cranberries au Royaume-Uni ont augmenté de 1000% depuis donc le décès de la chanteuse.
C'est gros, ça.
Et oui, effectivement, c'est énorme. Il y a même un album compilation du groupe également qui un best-of, le 1992-2002, qui s'est classé numéro 16. Et ça, c'était mieux que lors de sa sortie en 2002, parce qu'à l'époque, l'album était classé en 20e place selon les chartes officielles. Alors, il y a aussi son conjoint qui a fait un hommage bouleversant sur Instagram, évidemment. Et on va voir encore sans doute certains hommages qui seront rendus là dans les prochaines semaines. Parlant d'un autre chanteur qui est décédé également, lui, c'est l'automne dernier, au mois d'octobre. Il y a la famille de Tom Petty, donc, oui, qui a annoncé hier que c'est une surdose accidentelle de médicaments qui a causé la mort du musicien.
Accidentel. Ben, j'avais juste vu passer le grand titre, surdose de médicaments, je me suis dit, il s'est enlevé la vie avec des médicaments.
As-tu remarqué à quel point il y a beaucoup de surdoses de médicaments accidentels, justement?
Avec le fentanyl, les fameux accros aux antidouleurs, là.
Et c'est exactement d'ailleurs ce qui est en cause dans la situation là, parce que les résultats du rapport d'autopsie montrent évidemment qu'il y avait plusieurs médicaments qui étaient consommés par le chanteur. En fait, il souffrait depuis plusieurs années là. Il était âgé de 66 ans, mais il y avait beaucoup de problèmes de santé, l'emphysème, des problèmes de genoux, problèmes de hanches fracturées. Alors évidemment, on s'en doute, beaucoup de douleurs attachées à ça. Et il a continué lui, malgré tout ça, de donner des spectacles malgré son état de santé qui s'est détérioré, notamment pour la hanche. Alors il a traiter sa douleur avec le fameux fentanyl. Et peut-être qu'on n'est pas assez conscient que certains médicaments mélangés ensemble, ça peut avoir vraiment des résultats funestes. Alors,
en même temps, ce qui est vraiment vicieux avec ce médicament-là, cette drogue-là, cette addiction, c'est que t'as un problème, t'as des douleurs, le médecin te prescrit ça pour apaiser tes douleurs. Puis au final, c'est que tu t'habitues, tu développes une accoutumance au sentiment de bien-être que te procure ta médication. Tu sais, c'est pas nécessairement des gens... Oui, ils s'en retrouvent dans la rue, puis bon, il y a des gens qui mettent qui mélangent toutes sortes de cochonneries, mais le problème du fentanyl, principalement, c'est que les gens deviennent accros à ça à cause d'une prescription médicale.
Il y a aussi certains mélanges des médicaments qui peuvent être très dangereux. Évidemment. Tu sais, je veux dire, des fois, tu vas prendre un antidouleur, puis à un moment donné, tu rajoutes une autre affaire là-dedans, puis un autre problème de santé, puis là, tu sais pas tous les liens, on n'est pas des pharmaciens. Puis à un moment donné, bon, on consomme des affaires qu'on a déjà dans notre pharmacie depuis bout de temps, on ressort ça, et souvent, c'est malheureux, mais dans beaucoup de cas de mort, en tout cas, c'est parce que souvent, évidemment, c'est beaucoup plus médiatisé, là, mais des jeunes comédiens, des jeunes chanteurs, on se dit, voyons, qu'est-ce qui peut expliquer une mort à 30 ans comme ça, ben souvent il y a eu des mélanges de médicaments. Alors c'est le cas, lui, c'est un arrêt cardiaque que ça a provoqué ça le 1er octobre dernier. Une autre allégation encore du côté de Hollywood. Décidément, à chaque semaine, il y a toujours soit un chanteur ou encore un acteur qui se fait montrer du doigt.
Il y a une tête qui roule.
Il y a une tête qui roule. Celle-là, on en entend parler depuis un certain moment parce qu'il avait même anticipé cette sortie-là. C'est l'acteur Michael Douglas qui fait l'objet de poursuites pour l'instant, mais d'allégations. Alors, une femme qui a travaillé pour lui dans les années 80 a allégué que l'acteur avait eu envers elle divers comportements sexuels déplacés. Lui, il avait justement, comme je dis, anticipé, vu le problème arriver, et déjà en janvier, il avait nié avoir eu de telles conduites. Alors, c'était à l'époque où la dame travaillait pour une société de production qui s'appelle Stonebridge. Ça s'est passé dans les appartements de Michael Douglas. Et il semblerait qu'il se serait mis la main dans le pétillon et qu'il se serait pogné le zouiz devant elle. Voilà pour donc les allégations. On n'est pas à la première surprise. Hein. Ça n'arrête pas. C'est un feu roulant.
Tu parles si ça a de la classe. Et mon Dieu que ça a de la classe. 8h58.
Que Québec se lève. On prend une petite pause. On vient ensuite.